choisi de vous présenter quelque chose qui n'est pas tout à fait abouti encore. C'est voilà, une question plus que des réponses. C'est quel bon sens donner aux plantations de haies qui fleurissent dans des zones périurbaines? Et je vais m'appuyer sur deux exemples. L'un que je vais rappeler brièvement, c'est l'exemple de la vallée de la Loire, c'est en rappel de ma thèse. Et puis un exemple que j'ai travaillé plus récemment, c'est l'histoire du vignoble de Saumur-Champigny, où là, les viticulteurs ont décidé de planter des haies au milieu du vignoble pour favoriser la biodiversité. Donc voilà quel bon sens donner à cette opération, en jouant bien sûr sur le jeu de mots bon sens. Pour moi, ce qui m'intéresse, c'est de comparer ça avec une approche un peu plus historique, et c'est ce que je vais vous présenter aussi, des haies, à travers la lecture des traités d'agronomie, pour essayer de retrouver l'origine des haies, celle qui était cohérente, on va dire, en termes d'agronomie, et comparer les opérations actuelles avec cette approche un peu plus historique. Alors, je ne suis pas historien, j'espère ne pas faire trop d'erreurs dans mes lectures, mais voilà, c'est un peu l'éclairage que je veux vous apporter aujourd'hui. Alors, le postulat de toute cette recherche, c'est déjà de reprendre l'idée que le paysage est un double miroir de la société, donc le bocage en tant que tel, à la fois en tant qu'objet et en tant que représentation. Et l'objet, ce qui m'intéresse, c'est de l'étudier à au moins trois échelles. L'idée que le bocage, c'est pas un objet résumé à la haie, comme on a tendance à l'entendre souvent, mais c'est un système, donc avec au moins trois échelles, l'échelle du réseau, l'échelle de la haie, la façon dont elle est, la forme qu'elle a, sa hauteur, comment elle est entretenue, etc. Et puis sa composition. Et puis, alors, au niveau des représentations, alors, en formant des paysagistes, on travaille beaucoup sur les représentations, puisque on voit bien que le paysagiste doit s'inspirer des attentes de la société, mais en fait, quelles sont les représentations dont il faut prendre en compte? Est-ce qu'on doit faire plutôt appel aux représentations esthétiques, aux représentations savantes, aux représentations vécues? Moi, ce qui m'intéressait ici, c'était de revenir sur l'idée d'essayer de comprendre l'histoire des haies plutôt à travers des représentations savantes, parce que les représentations vécues, mais on ne les a pas, elles sont très difficiles à avoir. Et puis les représentations esthétiques, ben j'ai l'impression qu'elles sont souvent même contradictoires, décalées, et on a tendance parfois à leur donner trop de poids dans l'explication, en tout cas, des formes passées. Alors, pour revenir sur les dynamiques, donc je formule deux hypothèses. Une hypothèse vraiment très pratico-pratique, c'est que l'histoire des haies, pour moi, elle va se comprendre à travers des usages, avec l'idée que l'usage de la haie va faire le lieu où on va la positionner, et puis la forme, la composition. Et puis la deuxième hypothèse, c'est qu'on ne peut pas se passer des héritages et que les héritages influencent beaucoup la façon dont on gère les paysages agraires aujourd'hui. Donc j'ai emprunté une phrase à André Gide que je trouve plus jolie pour dire tout ça. Le présent serait plein de tous les avenirs si le passé n'y projetait déjà une histoire. Donc pour moi, l'importance de revenir un peu sur le passé. Donc ce qui ressort déjà de tout ça, c'est qu'on parle du bocage comme un héritage, mais il faudrait déjà parler des bocages, bien sûr. Et puis aussi, l'idée que c'est un héritage déjà très évolutif. Et c'est ce que je vais essayer de vous montrer à travers toujours les textes d'agronomie. Alors, ça a ses limites, bien sûr, c'est un corpus particulier. Mais on voit bien comment l'objet haie lui-même a énormément évolué. Ses fonctions, l'objet en lui-même, ses fonctions se sont étoffées au fil du temps, en parallèle que l'objet évolue. Alors, déjà, une première question sur l'utilité des haies. Déjà, ben, en revenant un peu, donc, on retrouve ça chez tous les auteurs, hein, que ce soit, on peut revenir jusqu'aux Romains, Strabon, Columelle, etc. Et puis en allant étudier les auteurs du XIXe siècle, on voit bien que la haie, elle peut avoir quatre grands types de fonctions, clôture, délimitation, donc c'est ambigu, certains ont dit que c'était plutôt des délimitations, d'autres c'était plutôt des barrières pour empêcher les animaux d'aller manger les cultures. En tout cas, c'est à peu près le même rôle. Enfin, c'est deux rôles qu'on peut associer. Un troisième rôle, le rôle de ressources. Alors, des ressources qui peuvent varier énormément. Ça peut être bois de chauffage, fourrage pour les animaux, et puis aussi, aujourd'hui, biodiversité. Et puis, un rôle de protection. Alors, ce que je vous disais, c'est ce qui est intéressant, c'est que déjà, quand on s'intéresse un peu à la trajectoire des haies dans les textes d'agronomie, si on tape, on fait une recherche par le mot-clé haies, on ne trouve pas grand-chose, parce qu'il faut d'abord associer ces haies, enfin, il faut d'abord reconnaître que les haies, c'était avant tout des clôtures. Donc, il faut plutôt faire une recherche à partir des clôtures. Et dans ce cas-là, on trouve trois ou quatre types de clôtures, et avec une permanence aussi au cours du temps. Donc, on retrouve ça chez les Romains, chez les Latins. Donc, la clôture la plus parfaite, c'est le mur. Ensuite, la haie morte, la palissade. Ensuite, levée de terre ou fossé. et puis la haie vive. Et donc la haie va être considérée comme un type de clôture parmi les quatre, la haie vive. J'ai pris juste deux exemples, on retrouve quasiment la même classification chez De Pertuis en 1838. Alors, je vous disais, ce corpus, il a une limite parce qu'on voit bien que les agronomes s'inspirent les uns des autres, et en particulier, eh bien, on retrouve toute l'influence des agronomes romains dans le texte d'Olivier de Serres, et ensuite l'abbé Rosier qui s'inspire énormément d'Olivier de Serres, et ensuite tout le 19e qui s'inspire énormément des cours complets de l'abbé Rosier. Donc, bon, il y a un petit biais par rapport à tout ça. Alors, une petite approche très 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 rapide. Je me suis amusé à essayer de retrouver dans les définitions des dictionnaires la définition du mot « et ». Et à partir de là, essayer de voir de quoi elle était composée et quelles étaient ses fonctions. On voit déjà avec ce tableau très rapide qu'il y a une évolution. On part de haies qui sont vraiment des clôtures, des haies d'épines, de ronces, de sureaux. Alors le sureau qui était très présent dans les premières définitions, et pourtant je ne connaissais pas à l'origine des haies de sureaux. Et puis on arrive de plus en plus vers des haies plus étoffées, avec des arbres, des arbustes, etc. Alors des haies de sureaux, en cherchant, une fois que j'avais lu ça, j'ai mieux cherché. Et là, en Anjou, par exemple, en bord de Layon, on voit une très vieille haie de sureau, monospécifique, qui faisait clôture entre les pâtures et puis les vignes. Un autre tableau aussi très synthétique qui mériterait d'être étoffé, mais c'est juste pour vous montrer un peu la démarche, où là, ben, j'ai repris quelques traités d'agronomie, aussi traités de foresterie, parce que la haie, elle a à la fois elle a été étudiée par les agronomes, mais aussi par les forestiers. Et on voit, c'est juste pour montrer quelques éléments, on voit à quel point les rôles se sont étoffés et ont été modifiés. Au départ, on parle surtout des clôtures. L'abbé Rosier est le premier à nous parler d'autres rôles, comme le paravent aux arbres aux moissons. Il nous dit aussi que la haie peut accélérer la maturité des récoltes. Je vais y revenir, parce que tout ça a été contredit plus tard. Et puis, par contre, ce qu'on constate quand même, c'est que au 19e siècle, deuxième partie du 19e siècle, la période où vraiment on a généralisé le système bocager, bien là, on attribue beaucoup de nouvelles fonctions aux haies et des fonctions plus étoffées par rapport aux protections. Donc voilà, à partir de tout ça, déjà, une première hypothèse, donc, c'était que l'utilité de la haie, c'est étoffer en même temps que l'objet. Et repartir sur cette histoire, c'est réinterroger les attentes aujourd'hui et de se poser la question, par rapport aux attentes qu'on exprime aujourd'hui, est-ce qu'on ne peut pas s'inspirer de l'histoire ? Alors ça, c'est dans ma démarche d'enseignement aussi par rapport aux paysagistes. Est-ce qu'on ne peut pas s'inspirer de ce qui a été fait avant pour réinventer des nouveaux modèles qui soient adaptés aux nouvelles fonctions ? Puisque on va voir que c'était vraiment c'est ce qu'on peut ressortir de cette approche un peu historique. Premier rôle de clôture, on connaît la haie autour des jardins. La haie qui était aussi faite pour... Le jardin était aussi le lieu d'aisance, donc la palissade qui devait protéger le jardin, l'endroit le plus précieux, donc qui inspire aujourd'hui nos paysagistes. Par exemple ici à La Roche-Jégue en Bretagne, où ils ont fait tout un système de haies tressées en osier. Donc, je vais revenir rapidement sur les premières descriptions. Donc, on voit bien que dans les textes, on définit au départ un premier réseau de haies, un réseau que certains ont appelé le bocage organique. Alors, pour prendre un exemple sur la vallée de la Loire, on voit bien que ce réseau entourait les terres cultivées. C'était même une condition nécessaire de mise en culture des terres. Donc, il fallait protéger les terres de la dent des troupeaux. Donc, pour ça, forcément, il fallait les clôturer. Alors, les clôturer, ça ne veut pas dire forcément mettre une haie. Au départ, ça peut être, ici, dans la vallée de la Loire, on imagine au départ un fossé, plutôt, mais ensuite une haie qui va venir doubler le fossé. L'idée, donc, c'est de marquer les limites de propriété, protéger les cultures. On les retrouve plutôt à proximité des habitations, pour mettre en valeur les terres les plus proches. Bien sûr, aussi, les terres les plus riches, les plus faciles à travailler. Et donc, dans la vallée de la Loire, on voit qu'il y a aussi une stratégie, parfois, pour arrêter certains conflits. On dit, ben voilà, on clôt les terres, et comme ça, on met tout le monde d'accord. Donc c'est une autre stratégie de la clôture à un moment donné. Mais on est toujours sur clôture des limitations. On voit bien que dans cette période, je reste sur l'exemple de la vallée de la Loire, dans une première période, en fait, la clôture ne peut pas se répandre, parce qu'il y a au moins deux obstacles. Il y a le droit de veine pâture, qui interdit de clore les terres, et puis il y a les terres communales aussi, qui doivent rester communales, donc interdiction de clore les terres. Alors on a au départ donc un réseau plutôt lâche qui délimite les métairies, qui protège les terres précieuses, et on peut s'intéresser à la forme et à la composition de ces bonnes clôtures, entre guillemets. Donc là, c'est là où la démarche est intéressante. On commence par les contraintes, et on connaît parfaitement, autrefois les agronomes, les anciens paysagistes, on pourrait dire, connaissaient parfaitement les végétaux, avaient leur palette végétale, et vont choisir des végétaux en fonction des contraintes. Donc les contraintes, c'est déjà, si on veut faire une bonne clôture, il faut qu'elle soit impénétrable. Alors on trouve parfois dans les textes une bonne haie, c'est comme même la poulaille ne traverse pas, donc il faut vraiment qu'elle soit parfaitement impénétrable. Donc ça veut dire qu'il faut qu'il y ait des épines entremêlées, ou alors du plaissage, des plantes à ramification basse. On devine que si la plante a des ramifications trop hautes, ça ne fait pas faire une bonne haie. Et puis alors, il y a des textes intéressants qui disent une haie durable, c'est une haie monospécifique, puisque sinon, elle est pas. S'il y a deux espèces qui ne poussent pas à la même vitesse, eh bien, on va pas avoir le même, on va pas avoir une bonne efficacité. D'autres contraintes, elle doit être étroite, ne pas manger la terre voisine. Alors là, c'est l'idée que la haie, elle doit supporter des tailles régulières. Et puis aussi, surtout, des racines non traçantes, parce qu'on sait à quel point l'or vert du laboureur, c'est le fumier, donc il ne faut surtout pas que la haie aille manger le fumier des cultures voisines. Donc, un exemple, éviter le châtaignier, par exemple, pour les racines non traçantes. Et puis, donc, troisième très grande contrainte, la haie est considérée comme nuisible pour les cultures, donc surtout si elle fait de l'ombre, donc absolument, les haies doivent être absolument rabattues, tondues, et donc, là, pour la baie de la Loire, exemple, on a rabattu les frênes en têtard régulièrement. Donc, alors, ce qui est intéressant, c'est toujours par rapport à cette vision un peu paysagère, on voit qu'on a des choix d'espèces qui sont proposés, puis alors, il y a la dernière roue du carrosse, on pourrait dire, c'est l'esthétique, et on trouve des textes intéressants qui nous disent, ben, la meilleure haie, c'est l'épine blanche plutôt que l'épine noire, parce que c'est plus joli, mais ça, c'est après avoir, bien sûr, répondu à tous les autres critères. Et puis, ça donne, par exemple, dans la baie de la Loire, un système de haies qui a complètement disparu aujourd'hui, qu'on appelait les treules, qui étaient des branches de saules entremêlées. Alors, je vais vous montrer un petit exemple sur une carte postale ancienne. Sinon, voilà un traité de Thouin du Muséum d'histoire naturelle qui avait sa ferme expérimentale et qui proposait différents types de haies qui répondaient bien à tous ces critères, donc très étroites, donc souvent associées à un fossé. Donc on voit, ils ont testé plein d'espèces, différents types de tontes, et on voit à quel point la haie est réfléchie en fonction de tous ces usages. Donc exemple de la vallée de la Loire, donc je vous disais au départ plutôt des fossés. Dans une logique de découpage, de partage équitable, le découpage était plutôt perpendiculaire au fleuve. Et puis l'idée, c'était de faire des clôtures infranchissables. Donc là, la définition des treules, faite avec des perches de saules de diverses grosseurs. Donc, je passe vite, je vais montrer tout de suite l'illustration. Et puis on dit toujours ne pas gêner les cultures voisines, donc plutôt des haies basses. Alors voilà, une carte postale ancienne, c'est la seule sur laquelle j'ai trouvé ce qui pourrait être l'ancêtre des treules. C'est sur l'île de Béhuard, on voit bien ces formes de saules rabattus comme ça. Un autre héritage, c'est on parle beaucoup des haies de frêne têtard dans la vallée de la Loire, mais en fait les héritages les plus anciens, c'est surtout des haies d'aubépines qu'on retrouve dans le Val d'Authion, et pas n'importe où, au bord du fleuve, sur le bourrelet de rive, là où il y a les terres ont été le plus tôt mises en culture en fait. Et puis alors quelques vestiges de plaissage, ici du frêne encore plaissé dans les mêmes zones. Passe vite hein, en termes d'évolution historique. Après, mais on connaît bien l'influence du modèle anglais à partir de la fin du 18e siècle, pardon, avec le phénomène des enclosures, qui a beaucoup inspiré nos agronomes français. Même si avant la Révolution, on voit vraiment une période de transition entre 1890, on va dire, puis 1790, pardon, et 1810. On voit bien que les agronomes se divisent au départ. Ils sont pas convaincus de la haie, l'intérêt de la haie. Puis après, ils sont complètement charmés par ce que peut apporter une haie, mais une haie, je dis bien pas une haie, une clôture pour améliorer la production. Et donc voilà un exemple de citation où l'agronome est encore un peu réticent. Donc il nous dit par exemple que les plantations de haies, donc on est juste au lendemain de la Révolution, elles entraînent le propriétaire à des dépenses très fortes, sans avantage. Elles sont nuisibles aux champs et aux routes. Sous les arbres en bordure, la récolte est maigre, elle absorbe fumier et labour, etc. Et donc, il nous précise que pour les clos devant passer de l'état de terre arable à celui de pré, étant soumis à une rotation de culture régulière, les haies sont à cet effet tenues fort basses tout le temps que la pièce est cultivée. Et puis, on les laisse grandir quand on la convertit en pré. Donc là, on voit bien qu'on adapte la haie en fonction du voisinage et en fonction d'une contrainte qui est l'ombre provoquée par la haie. Alors, sous l'influence du modèle anglais, va apparaître un deuxième réseau bocager. C'est surtout lié au partage des communaux, bien sûr, avec la loi de 1791, où là, on va avoir un découpage beaucoup plus géométrique. On va moins tenir compte des aspérités du relief, on va moins tenir compte des différences de sol, etc. On va avoir quelque chose de beaucoup plus régulier, beaucoup plus géométrique, donc ce que certains ont appelé le bocage mimétique. Alors, c'est là où c'est intéressant, parce qu'on voit bien que la haie est présentée comme le complément indispensable d'une agriculture perfectionnée. Voilà ce que nous dit De Gasparin en 1846. Lui, sans clôture, les pâturages sont gaspillés par les bestiaux. et bien sûr, enfin, il dénonce encore les terres qui subissent le droit de parcours et qui définit ça comme étant mortel pour l'agriculture. Bien sûr, il va y avoir de nouveaux encouragements qui vont favoriser cet embocagement, donc dans les grandes vallées comme la vallée de la Loire, donc le développement du chemin de fer qui va favoriser l'élevage, et puis aussi le manque de bois qui fait que tout d'un coup la haie va aussi changer. On va favoriser énormément les arbres qui vont pousser dans la haie spontanément où on va en planter, et donc sans doute l'apparition d'un nouveau modèle, la haie plus étoffée avec ses arbres des mondes. Donc là, on voit apparaître un réseau dense et géométrique qui cloisonne les pâturages. Donc on change complètement de logique. Hein. On entourait les terres cultivées, maintenant on est autour des pâturages. Et puis on a une logique de finage qui est assez intéressante. C'est-à-dire que chaque commune a partagé ses communaux, mais selon ses besoins. Et on voit très nettement dans les vallées, je vais mettre une illustration, dans les vallées angevines, que les terres les plus humides ne sont pas partagées, les terres intermédiaires sont partagées, et puis les terres les plus hautes sont mises en culture. Mais ça, il n'y a pas de lien absolu avec un niveau topographique, c'est plutôt une valeur relative à l'intérieur de chaque commune. Bon, je passe un peu sur la citation, mais c'est juste là, je passe rapidement, c'était le préfet d'Élie d'Oissel qui, en 1810, au bord de l'Authion, constate tout l'intérêt de clore une prairie. Il nous dit bien que si la prairie est close, eh bien à ce moment-là, la végétation est vigoureuse, etc. Et si la prairie n'est pas close, comme on laisse pâturer les porcs, les oies, les moutons, surtout les porcs et les oies qui détruisent les prairies, les deux prairies côte à côte n'ont pas du tout le même aspect, d'où l'intérêt de clore les terres. Donc on voit bien que c'est un perfectionnement de l'agriculture. Et le perfectionnement, ce n'est pas la haie en elle-même, hein, ce n'est pas l'effet limitrophe de la haie au départ, c'est la clôture. Alors on voit très nettement sur ces photos-là, c'est l'héritage des partages des communaux du 19e, incomplets, dans le Val d'Authion, donc sur des photos colorisées des années 50. On voit donc que quand les terres étaient vraiment riches, quand on se rapproche de Saumur, bien tout a été divisé, toutes les terres ont été divisées en lanières, perpendiculairement au fleuve. Et puis quand il y avait des terres plus inondables, comme le marais de Brun, ce marais est resté soumis à la veine pâture. Par contre, on voit bien qu'il y a des cloisonnements assez géométriques, avec donc les haies qui font clôture, elles sont complètement jointives, et elles sont en zone intermédiaire entre les cultures et puis les pâtures. Autre exemple, vallée armoricaine, la même chose, on voit un bocage qui n'est pas totalement abouti, on a des zones un peu plus inondables qui sont restées ouvertes, et puis les zones intermédiaires qui ont été fermées. Alors je vous disais, logique de finage, ici dans les basses vallées angevines, à la pointe de la commune de Briolet, on voit qu'il y a un réseau un peu moins géométrique. C'est sans doute le premier découpage c'est une basse terrasse du Quaternaire, un peu plus sableuse. Et puis par contre, on voit bien qu'il y a un réseau assez géométrique dans les vallées, mais qui s'arrête parfois. Alors si on place la limite communale, eh bien, on devine cette logique communale. On voit la commune de Briolet, eh bien, qui a partagé ses terrains qui a laissé ouvert ses terrains les plus humides, c'est-à-dire au niveau du bec entre la Sarthe et le Loir. Par contre, elle a partagé ses terrains un peu plus au nord. Et puis en face, la commune de Soulaire, elle a partagé des terrains encore un peu plus au nord, et puis elle a gardé en face des terrains ouverts. Alors de quoi a été composé ce deuxième réseau de haies ? Eh bien, on peut aller voir dans les usages locaux, par exemple l'usage locaux des cantons du Pont-de-Cé, qui nous dit que la rame, toutes les actions sont bien décrites, la rame des têtards appartient aux fermiers, elle doit être coupée alors, pour le chêne, tous les 7 ans, pour les bois blancs comme le frêne tous les 5 ans, les épines et les broussailles se coupent aussi tous les 5 ans, fossés nettoyés, et puis on nous dit bien que les jeunes arbres et jeunes pousses qui se rencontrent dans les talus et fossés doivent être conservés, c'est précieux, et chaque arbre qui disparaît doit être replanté, il y a des pépinières dans chaque exploitation, dans chaque ferme, et chaque arbre est remplacé. Alors voilà des héritages actuels, on devine cette nouvelle haie qui est rôle mixte, on va dire, ça reste une clôture avec la haie d'aubépine ou de frêne, plessée pour certains, et puis il y a ces frênes taillées qui apportaient à la fois le fourrage, le fagot, le bois de chauffage, voilà tout le complément. Alors quelles étaient les perceptions de ces haies ? Alors je vous disais, je me suis surtout intéressé aux descriptions agronomiques, mais on peut aller voir aussi ce qu'en disent les observateurs. Alors parfois il y a des descriptions intéressantes, comme ce que nous dit Onésine Reclus sur le bocage angevin en 1908. Il nous dit par exemple, si on reste sur un regard utilitaire, il nous décrit bien le système. Donc comme la haie est un ennemi pour les cultures, bien la haie n'entoure pas le champ lui-même, qui lui se met en blé, etc. Mais il dit bien que les bocageons intercalent entre la haie et les bouts de sillon une bordure d'herbe, ce qu'il appelle une quadruple prairie longitudinale où pèsent le bœuf, le porc, etc. Donc c'est le chintre, enfin, avec plusieurs orthographes, le fameux chintre qu'on pourrait dire l'ancêtre de la bande enherbée valorisée actuellement. Mais ce qui est intéressant, c'est son regard esthétique. Il nous dit vraiment superbe serait ces haies avec leurs ormeaux, leurs chênes, etc. Si le bocageon les branchait ses arbres, les fruitiers à part, tous les 5 ou tous les 7 ans, on les ampute douloureusement. Alors, certains auteurs ont cité pour cette époque, on est en pleine période romantique, et on cite Victor Hugo qui dit que couper les branches d'un arbre, c'est couper les bras d'un homme. Donc il y a une certaine sensiblerie par rapport à cette action. Mais c'est intéressant de voir le décalage où c'est la période où on multiplie le plus ces haies de frêne têtard. Et puis aujourd'hui, on s'appuie sur, au contraire, un regard esthétique qui s'est complètement renversé, puisque ces fameuses haies sont considérées aujourd'hui comme, au contraire, particulièrement belles, patrimoniales et qu'il faut absolument conserver. Mais c'est intéressant de voir à quel point, à l'époque, bien, il y a un décalage profond entre le regard agronomique et puis le regard esthétique. Alors, je me suis après intéressé à des fonctions qu'on attribue aux haies. Est-ce que la fonction contre le vent, par exemple, de brise-vent, était développée ? Alors, l'abbé Rosier était le premier à nous parler d'un paravent en 1784. Par contre, ses successeurs lui répondent en disant que ce n'est pas vraiment vrai. De Pertuis, par exemple, nous dit que la haie se borne à préserver du vent les parties qui en sont voisines. Et puis, surtout, s'il n'y a pas de tonte avant l'ensemencement, l'ombrage est plus néfaste aux cultures que l'effet brise-vent. Et puis enfin, il dénonce même le fait qu'en arrêtant le vent, la haie provoque des rafales et des tourbillons. Donc en gros, la haie est plus nuisible qu'elle offre des avantages. De Gasparin reprend un peu les mêmes arguments. Rosier disait que l'effet brise-vent se voyait parce que les plantes étaient plus belles au pied de la haie. Alors Gasparin nous dit ben non, parce que c'est le terreau qui est plus fertile. Par contre, il nous dit que ça a un autre défaut, c'est que ça retarde la disparition des brouillards, donc c'est plutôt néfaste pour les cultures. Et puis bien sûr, ça rend les chemins fangeux. Donc là, on sait qu'il y a une loi en Angleterre qui interdisait de planter des haies à moins de 1,50 m des chemins parce que ça rendait les chemins boueux. Donc, conclusion, elles manquent leur but comme abri contre le vent dans les propriétés très étendues à culture annuelle. Alors par contre, bien sûr, on connaît des haies d'abri spécifiques. Donc les haies d'abri spécifiques, ça on les connaît tous, c'est les haies de cyprès par exemple contre le mistral, qui ont commencé à se développer autour de 1830. C'est aussi le modèle du Jutland au Danemark qui a beaucoup inspiré les agronomes au début du XXe siècle, les écologues, l'écologie du paysage en particulier, où là on plantait des haies de sapins vraiment pour mettre en culture des terres vraiment balayées par les vents. Dans tous les cas, ce qui est intéressant, c'est toujours une haie monospécifique, espèce plutôt haute, qui est vraiment réfléchie en fonction de son rôle brise-vent. Un exemple vu récemment au Maroc, ou alors bien sûr le clos masur du pays de Caux, où là encore on a les hêtres, c'est toujours monospécifique, et donc c'est pas n'importe où. Si on compare rien que le pays de Caux au Roumois, le Roumois qui est plus dans l'intérieur des terres, on ne va pas retrouver tout à fait les mêmes types de haies. Il n'y a pas besoin de se protéger autant contre le vent, mais on voit à quel point c'est toujours réfléchi de façon très. Enfin, c'est très pragmatique, voilà. Et puis aujourd'hui perçu de façon très, très esthétique. Alors, d'autres avantages des haies, l'abbé Rosier nous disait que ça accélère la maturité, bonifie les champs, etc. C'est des arguments qu'on donne souvent aujourd'hui. Donc, encore une fois, une réponse de Bosque qui nous dit non, ça brûle les récoltes. Les mieux nourris viennent des grandes plaines ouvertes. Et en conclusion, on ne peut tirer d'un sac de mouture. Donc, c'est soit on recherche le bois, soit les produits de la culture. Alors, il s'appuie bien sûr sur l'exemple des grandes plaines où on produit le plus de blé, et donc il dit qu'il n'y a pas besoin de clôture puisque c'est là qu'on produit le plus de blé, et c'est un bon exemple c'est là où il n'y a pas de haie. Alors une autre évolution qui va apparaître, c'est l'idée que la haie va perdre progressivement sa fonction, mais c'est plutôt le bois qui va l'arbre en lui-même qui va prendre de la place. Et on trouve ça par exemple d'une étude de Julien Gracq, donc alias Louis Poirier, sur le bocage angevin de l'Anjou. Alors, il nous montre, enfin, il a une démonstration très concluante. Il nous dit d'abord, il y a la haie. Autrefois, il fait la séparation entre le Saumurois, pays de donc un bassin parisien, une grande culture complètement ouverte, et puis les Mauges, zone complètement fermée par du bocage. Et il nous dit, eh bien, le bocage, a priori, ça grignote des terres. Donc, si ça grignote des terres, ça ne vaut pas le coup de grignoter des terres riches, donc on a mis plutôt à planter les haies là où les terres sont pauvres. Donc j'ai repris le prix des terres en 1840 et on voit bien cette différence. Les terres du Saumurois sont beaucoup plus. La valeur locative des terres est plus importante que dans les Mauges. Par contre, quelques années plus tard, donc à l'époque, au début du XXe siècle, on voit que ça s'est inversé. Du fait du développement de l'élevage avec les herbages dans les Mauges, eh bien, les terres les plus chères sont devenues les terres des Mauges. Donc ce que nous dit Louis Poirier, c'est qu'en fait, c'est aberrant de conserver des haies. Il nous dit ça en 1930, il dit les haies sont périmées. Donc alors il s'intéresse, il se pose la question pourquoi les gens conservent des haies. Et donc ce qu'il va démontrer, c'est qu'ils conservent des haies, c'est pas l'intérêt du fermier, mais l'intérêt du propriétaire pour le bois de chauffage. Il nous dit bien que c'est le bois de chauffage qui préserve la haie, et c'est comme ça qu'il fait sa démonstration. Donc on voit bien qu'il y a un glissement progressif de l'intérêt de la haie en tant que clôture jusqu'à l'intérêt de la haie en tant qu'arbre. Et là, on voit dans les dernières parties du 19e siècle l'apparition de nouvelles fonctions, la haie abri pour les troupeaux. On comprend comment la haie est basse de haie d'épines, c'est complètement étoffé avec les arbres, et on a laissé pousser progressivement la haie. Et tout d'un coup, elle va avoir des nouveaux rôles qui vont être découverts en même temps que l'objet va évoluer. Donc là, je reprends Louis Poirier qui nous disait vraiment l'intérêt, c'est le bois pour le propriétaire. Donc progressivement, disparition du rôle de barrière, et puis manque d'entretien du fourrage des haies. Donc c'est lié à l'invention des clôtures métalliques qui vont remplacer tout ça. Et puis l'apparition des boulangers aussi, on devine que y a besoin de moins de fagots, donc on taille moins les arbres et on les laisse pousser un peu plus longtemps. Et leur hauteur augmente. Alors il y a la période, après on passe à une période bien, qu'on connaît un peu mieux, la période plus récente des remembrements, où là, eh bien, on va arracher les haies, et là ce qu'on dénonce c'est à nouveau l'effet barrière. Donc là, pas besoin de revenir très longuement sur cette période-là. Juste quelques citations pour bien insister sur ce qu'on dénonçait, enfin, l'idée que la haie avait perdu de son utilité, et donc après lui avoir attribué toutes les vertus, on lui attribue à peu près tous les maux. Donc par exemple, ce que nous dit Genet de la Louvière en 1946, les haies forment des bonnes clôtures, durables et peu coûteuses, mais elles gênent les cultures voisines en absorbant l'eau et les matières nutritives, empêchent la lumière solaire et servent de refuge aux insectes. Donc c'est intéressant par rapport aux nouvelles fonctions aussi qu'on veut leur donner aujourd'hui. Et puis le côté social aussi qu'il ne faut pas négliger. Ici j'ai repris une citation d'un agriculteur militant de la Jacques Angevin qui a beaucoup écrit sur sa vie et sur son métier et qui nous raconte comment en tant que militant de la Jacques, il a essayé de convaincre ses concitoyens d'arracher les haies. Et il utilise des arguments qui sont très forts. Juste la dernière phrase, il dit « Réfléchissez bien et pensez à l'avenir de vos enfants qui n'accepteront jamais de travailler dans vos conditions. Hein, » Avec un siècle d'exode rural, chacun s'est retrouvé avec des parcelles totalement éparpillées dans l'espace. Et donc, le but, c'est d'arriver à regrouper ces parcelles et d'éviter que les gens perdent leur temps à aller d'une parcelle à l'autre. Donc on voit bien cette période de restructuration foncière qui est liée à un manque de bras évident pour l'agriculture. Et puis, en faisant ces recherches, je me suis aperçu aussi quelque chose qui a dû favoriser, c'était le recyclage des usines d'armement qui a permis de développer les bulldozers. On insiste beaucoup là-dessus. C'est évident qu'on a planté les haies à la bêche et on les a arrachées aux bulldozers. Et sans ces nouvelles machines, peut-être que la période aurait été moins. Enfin, l'efficacité aurait été moins importante. Et puis, sans doute, une recherche de la géométrie. Alors, une illustration toujours. Ici, c'est un Science et Vie spécial agriculture 1947. On voit à quel point, à travers les photos, on recherche le progrès, le côté rectiligne. La photo, je ne sais pas si elle est trafiquée, mais il y avait les concours de labour qui sont nés à cette période-là avec les tracteurs et les premières charrues tirées par les tracteurs. Et là, on voit que le labour est parfait puisqu'on termine le champ. Il n'y a pas un centimètre d'écart. Et puis, je vous disais, recyclage des usines d'armement où on met en valeur le bulle. Et les tracteurs sur chenilles. Alors j'arrive à, bien sûr tout ça c'est très rapide, c'est un balayage très rapide, j'arrive à la période actuelle et c'est celle-ci qui va m'intéresser. Je vais développer un peu plus le projet du Saumurois, mais en restant sur le bocage angevin, quand on voit un peu son histoire, ce qui est amusant c'est de comparer à la réinterprétation qui est faite actuellement du bocage ligérien. Donc là je me suis basé sur une étude qui a fait date, qui a été commanditée par le Conservatoire des Rives de la Loire, et et en fait qui s'est diffusé à grands coups de communication dans toutes les universités, dans toutes les administrations, etc., où on nous dit clairement que la haie a été constituée pour un rôle écologique, avec l'idée que l'arbre a été vécu comme un moyen de freiner l'agressivité des crues, et un système original quasiment unique d'orientation des haies qui a été mis en place. Donc on distingue trois types de haies: les haies perpendiculaires à la circulation des eaux, les haies parallèles, et puis les haies à orientation indifférente. Alors, quand on revoit l'histoire, on comprend bien que ça, c'est une interprétation après coup, mais en fait, les haies, elles sont venues marquer un découpage des propriétés qui s'est fait au départ sans haies, puisqu'on a d'abord délimité les propriétés par des fossés. Donc, ce n'est pas du tout ce rôle-là qu'on a cherché au départ, mais peu importe, c'est le rôle qu'on lui attribue aujourd'hui. Et puis, on n'oublie pas dans ces cas-là de citer la sagesse qui aurait depuis toujours guidé les Ligériens. Donc, on voit que les haies sont aujourd'hui très patrimonialisées et on leur accorde beaucoup de fonctions à une certaine haie dite traditionnelle, donc protection des cultures, protection des bâtiments, avec un rôle brise-vent, qui favorise la biodiversité, favorise le drainage, restitue les eaux en période de sécheresse, diminue les vitesses de courant, et puis en France, surplus, une multitude d'ambiances et de points de vue. Donc, conclusion, eh bien aujourd'hui, il faut protéger ces haies contre les dégâts des bovins, donc il faut les clôturer. Donc, on arrive à ce paradoxe de clôturer les clôtures pour les protéger. Donc, on arrive vraiment à quelque chose une patrimonialisation complète du paysage rural. Et puis, deuxième opération, bien sûr, qui se multiplie un peu partout, c'est replanter des haies dites champêtres qui auraient toutes ces vertus. Alors, un exemple de replantation des haies, alors un exemple qui est quand même assez intéressant, c'est l'idée de planter des haies dans un vignoble, le vignoble de Saumur-Champigny, dans le Maine-et-Loire. Donc, c'est un vignoble qui s'étend à peu près, c'est une AOC qui s'étend à peu près sur 9 communes. Elle a été mise en place en 57. Donc, on voit bien qu'elle est dans un triangle entre la Loire et puis un affluent de la Loire, le Touet. Donc, on voit la ville de Saumur sur le promontoire rocheux qui fait la confluence entre le Touet et la Loire. Et puis, le vignoble de Saumur-Champigny, en gros, il a deux faces. Une face tournée vers la Loire, qui était autrefois vraiment du vin blanc, et puis une face tournée vers le Touet, qui était autrefois du vin rouge, et puis aujourd'hui, toute la haussée, c'est du vin rouge. En fait, après le phylloxéra, il y a une mutation progressive vers le vin rouge. Et puis on voit des boisements, parce que c'est une ligne de crête, et les boisements reprennent vers la forêt de Fontevraud et font la séparation entre les deux parties. Alors, dans ce vignoble, il y a une opération récente qui a été menée. C'est l'idée que c'est les viticulteurs qui ont lancé ça en réponse aux attentes de biodiversité pour valoriser à la fois leur territoire et leurs produits. Ils ont dit, ben nous, on va agir pour la biodiversité et on va planter des zones écologiques réservoirs. Et donc, les zones écologiques réservoirs, c'est devenu rapidement des haies, donc des haies dans un vignoble, avec, en profitant des aides mises en place à l'échelle de la région et du département, et puis d'autres aides aussi mises en place à l'échelle du parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine. Donc, en gros, à l'échelle de la région et du département, on a des aides pour planter des haies. Donc ça, c'est une aide qui est générale pour tout le département. Et puis, à l'échelle du PNR, il y a l'idée de replanter des arbres emblématiques, les noyers et les amandiers qui étaient présents dans le Saumurois. Alors, on a lancé une étude à travers un programme de recherche d'IVA2, donc agriculture et biodiversité, avec des collègues de l'ESA, l'École supérieure d'agriculture, et puis des collègues de l'INH, et où on a essayé d'étudier les pratiques viticoles, la place des espaces, ce qu'on appelle les espaces interstitiels, les haies, les noyers, les amandiers, etc., dans le vignoble, et puis les liens avec la biodiversité fonctionnelle et ordinaire. La place des haies dans un vignoble et la place des noyers et des amandiers dans le vignoble, et qu'est-ce qu'on peut en conclure par rapport à l'opération qui est menée actuellement? Alors déjà, les objectifs de planter des haies dans le vignoble, donc voilà, j'ai repris une plaquette qui a été diffusée par le syndicat des viticulteurs, qui nous dit que les haies plantées dans le vignoble vont participer au développement de la biodiversité, mais elles vont remplir aussi d'autres fonctions: absorption des eaux de ruissellement, lutte contre l'érosion des sols, délimitation des parcelles, embellissement des exploitations. Et donc, on peut s'attendre à quelque chose d'assez logique, puisqu'ils nous disent « les plants qui composent la haie sont donc choisis en fonction du site d'implantation, des contraintes du sol et du souhait du planteur ». Il y a un certain modèle de haie champêtre qu'on va retrouver à peu près tout le temps. C'est une haie plutôt très étoffée, avec différentes strates, pas trop étroites, très riche en termes de flore, de faune et de biodiversité, avec l'idée que ces vont abriter les auxiliaires des cultures qui vont permettre de mettre moins de traitements pour la vigne. Bon, faut savoir que la plupart des traitements sur la vigne, c'est pas forcément contre les insectes, c'est surtout contre les moisissures, les champignons, mais c'est quand même une tentative intéressante. Alors, je reviens sur mes textes anciens, et j'ai interrogé plutôt l'utilité de clore les vignes, de mettre des clôtures sur des vignes. Alors là, premier texte, Olivier de Serres, qui nous dit que ben, chlorlévine, ça peut être intéressant si c'est pour se protéger contre les larrons et le bétail. Donc Le Noir, quelqu'un qui a écrit sur un traité de culture de la vigne, qui reprend l'idée que on peut faire aucune amélioration dans la culture des vignes, en tout cas c'est au 19e siècle, si elles ne sont pas closes, et il revient sur un droit qui est important, c'est le banc des vendanges, qui fait que, de toute façon, on est obligé de se soustraire au banc des vendanges, et la seule façon, on est obligé de respecter le banc des vendanges, et la seule façon de s'y soustraire, donc si on veut être un peu perfectionniste, progressiste, eh bien il faut clore sa vigne, donc c'est voilà, une des bonnes raisons de clore une vigne. Maintenant, quel type de haie pour une vigne, sachant qu'il y a quand même pas mal de contraintes? Eh bien, dans le nouveau cours complet, on nous dit qu'il faut plutôt des haies basses pour protéger la vigne des vents froids et humides. Donc, des haies basses toujours pour ne pas faire trop d'ombre. On nous dit que ça peut aussi servir à protéger les gelées de printemps, protéger des vents marins. Alors ça, c'est bien sûr à l'époque où il y avait encore des vignes autour dans les zones un peu plus septentrionales. Et puis, une autre fonction possible, c'est soutenir les terres sur des pentes rapides. Alors, quel type d'arbre? Eh bien, surtout, par contre, de respecter toujours les mêmes contraintes, des arbres ou arbrisseaux dont les racines ne soient pas traçantes, et puis des feuillages qui ne soient pas trop touffus pour ne pas faire trop d'ombre. Donc là, en fait, par rapport à toutes mes lectures, j'ai retrouvé que deux auteurs qui disent qu'on peut planter des vives dans une vigne, mais à condition de respecter quelques conditions. Mais la plupart des auteurs disent que c'est vraiment une hérésie de planter des et dans une vigne, et surtout de planter des bois. Donc Olivier de Serres nous rappelle quand même qu'on s'abstiendra de planter dans la vigne aucun arbre, afin que sans empêchement elle jouisse de la lumière et de la chaleur du soleil. Ce dire se trouve suffisamment vérifié par le dicton qui dit que l'ombre du bon maître fait la vigne croître, ou alors de façon plus actuelle, on dit que la vigne ne supporte que l'ombre du viticulteur. Alors bien sûr, il y a eu beaucoup de débats aussi par rapport aux vignes conduites en hautain, où en fait on faisait monter la vigne sur l'arbre, et ça c'était un système hérité qui a été développé surtout en Italie, et on nous dit que ça marchait bien surtout parce que on était en système qui produisait à la fois des fruits, de la vigne et puis des céréales, et puis surtout en Italie il y avait beaucoup de soleil. Alors ça a quand même été un système qui a été copié pendant très longtemps dans la vallée de la Loire, mais les auteurs racontent bien que c'est pas du bon vin que l'on produit, mais c'est plutôt de la quantité, et cette quantité elle sert plutôt à faire du vinaigre et qui est envoyée ensuite par bateau. Toujours dans le même esprit, Rosier qui nous rappelle que tout arbre nuit à la vigne, autant par son ombrage que par ses racines. Et puis Chaptal qui nous dit que nous proscrivons dans nos vignobles non seulement les arbres épars, mais nous en éloignons spécialement les haies vives, etc. Donc l'ombre est plutôt néfaste, la racine traçante c'est un autre handicap. Ça favorise l'humidité, donc les gelées, c'est plutôt la majorité des auteurs qui pensent ça. Alors, est-ce que ça peut être un abri pour les auxiliaires? C'est quelque chose qui est déjà abordé au XIXe siècle. Alors, plutôt de façon négativement, Amoureux qui nous dit qu'elles servent de refuge à tous les insectes dévastateurs. Et puis, Lulin qui nous dit qu'elles servent de refuge contre les intempéries, aux taupes, aux souris, etc. Alors, ce qui est amusant, c'est qu'il nous dit que, en même temps, ça peut être un avantage, comme c'est là qu'ils se refugient, c'est là qu'on peut aller les chercher, donc ça facilite la destruction. Donc, autant planter des haies vives pour aller favoriser la destruction des insectes. Au final, quel type de clôtures sont supportables, on va dire, autour des vives? Eh bien, ce qui est intéressant, il y a l'aubépine, toujours, c'est universel, mais il y a l'amandier. L'amandier, pourquoi? Parce que c'est d'abord un arbre qui suit la vigne dans ses conditions bioclimatiques, c'est un indicateur de la vigne. L'amandier, sa grande qualité aussi, c'est d'avoir des racines pivotantes. Alors, ça fait aussi que c'est un arbre qui a servi d'hautain bien souvent. On pouvait faire monter la vigne sur l'arbre parce que sa racine pivotante permettait de résister. C'est un arbre qui fait peu d'ombre. Et puis, c'est aussi l'amandier, on pense aussi qu'il a servi de porte-greffe pour tous les prunus, donc abricotiers, pêchers, etc., donc dans beaucoup de vignobles. Et puis, c'est aussi un arbre qui a des racines traçantes, enfin des branches à ramification basse, donc facile à plesser. Donc, on trouve plusieurs descriptions de haies d'amandiers autour de quelques vignes. Et puis aussi, bien, d'autres haies possibles, c'est de mettre des haies productives avec des fruitiers, pourquoi pas greffer sur amandiers. À nouveau, des amandiers, mais en tant que fourrage, qui peuvent produire du fourrage pour les animaux. Et puis, peut-être la meilleure haie de vigne, ben, c'est la vigne elle-même. Qui a aussi l'avantage d'être décorative. Donc voilà ce qu'il nous dit Amoureux en 1809. C'est vrai que c'est presque une lapalissade. Il nous dit quelle plus belle barrière aux vignes que et même aux vergers que la vigne elle-même. Et on pourrait dire qu'un vignoble, ben, c'est constitué de haies, puisque depuis que les haies sont en tout cas cultivées en rangée, depuis qu'on a utilisé les échalas avec des pieux et des fils de fer, eh bien en fait, ce ne sont que des haies. Malgré tout ça, on voit bien que la meilleure clôture dans une vigne, c'est une muraille, un mur. Alors, on nous dit que c'est luxueux, mais par contre, en même temps, c'est facile à faire lorsqu'on a beaucoup de pierres, et beaucoup de la pierre à bon marché, ce qui va être le cas dans le Saumur Champigny. Donc, dans le Saumur Champigny, par rapport à tout ça, est-ce qu'on a eu des... C'était la grande question, parce qu'au départ, les gens disaient on va replanter des haies, puisqu'il n'y a pas de haies actuellement. Alors, ben, y a plein d'arguments qui montrent que, sans doute, il n'y a jamais eu de haies dans ce vignoble. D'abord, il est constitué de... Il est dans une position géographique assez intéressante où il y a les deux grandes vallées à côté, la vallée de la Loire et la vallée du Thouet, qui offrent des grandes prairies communales. Donc, naturellement, on va dire, les prairies et les cultures sont déjà séparées. Donc, il n'y a pas besoin forcément de les séparer par des clôtures. Le parcellaire était extrêmement morcelé. J'ai retrouvé une étude à la veille du 19e siècle qui nous dit que un vigneron a à peu près un hectare en moyenne de surface, mais chaque parcelle fait en moyenne 8,8 ares. Donc on imagine mettre des haies autour des parcelles, ça aurait été vraiment une perte considérable de terrain. Et en 1929, on reste encore à des moyennes de 2,44 hectares de vignes par propriété, mais il n'y a pas eu de remembrement, donc ça reste très 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 morcelé. Et aujourd'hui, ça l'est encore. Un autre élément très important, c'est qu'on souligne toujours l'omniprésence du garde champêtre, dont c'était le rôle principal. Alors, je mets entre guillemets parce qu'il ne s'appelait pas garde champêtre avant la Révolution, mais il y avait toujours un garde pour surveiller les récoltes. Et puis, un autre élément important, bien sûr, c'est l'abondance de tuffeaux dans cet espace-là. Et chaque village s'est construit sur un affleurement de tuffeaux. Et on voit que les grands domaines, qu'ils soient des domaines au départ des grands propriétaires ou du clergé, eh bien, de toute façon, ils sont entourés de belles clôtures de tuffeaux. Donc, en fait, la haie vive en elle-même, elle n'a pas vraiment d'utilité dans cet espace-là, mais c'est plutôt les murs. Lorsqu'il a fallu clore les terres, on a utilisé des murs. Donc, absence de haie dans le vignoble, conclusion. Alors, les arbres isolés, je viens rapidement sur la position, les amandiers. Aujourd'hui, donc les gens veulent replanter des amandiers dans le vignoble de façon un peu éparse, on a l'impression qu'ils étaient autrefois. Donc, je me suis intéressé à la production d'amandes. On trouve quelques exportations d'amandes depuis Saumur, mais c'est très peu en réalité. Alors c'était en lien avec la période où les gens consommaient comme dessert ce qu'on appelait les quatre mendiants. Donc c'est plutôt une période reculée parce qu'ensuite c'est un dessert qui était considéré comme plutôt pauvre. Par contre, l'amandier en tant que porte-greffe, ça paraît plus plausible. Sans doute l'amandier servait de porte-greffe à d'autres arbres. Et en fait, les héritages actuels, en fait, il resterait le porte-greffe, mais les autres arbres auraient disparu, c'est-à-dire pruniers, pêchers, abricotiers. Et puis un texte intéressant du 19e qui nous dit que les amandiers plantés dans les vignobles, donc ils sont considérés comme étant efficaces pour préserver l'effet des gelées, mais en même temps on nous dit qu'ils sont en train de disparaître parce qu'ils sont en réalité plus nuisibles qu'utiles et qu'ils sont déjà en train de disparaître en plein milieu du 19e siècle. Quant au noyer, alors il y a un vieil adage qui dit que sous un noyer rien ne pousse. C'est lié à la juglone qui est produite par le noyer et qui empêche la levée des semences. Et donc, on retrouve ça dans les vieilles coutumes. La coutume d'Orléans, par exemple, obligeait de tenir éloigné un noyer des vignes de 4 toises, c'est-à-dire à peu près 7,20 m. On retrouve ça dans la coutume d'Anjou, 3,60 m minimum entre un noyer et une vigne. Et puis, dans l'usage locaux de 1911, eh bien, on voit que l'usage est de 2 m, mais par contre, il y a une revendication pour qu'il soit étendu à 3 m. Donc, le noyer au milieu des vignes, c'est un peu une hérésie. Alors par contre, il y avait beaucoup de noyers à cause de l'huile de... Enfin, il y avait une production d'huile de noix. Et puis, toujours cet observateur du 19e siècle qui dit qu'il constate déjà qu'au 19e, il y a des arbres qui sont placés ça et là, mais ce n'est pas très logique. Et il considère que, en réalité, les répartitions actuelles est déjà un peu le fait du hasard et le fait des oiseaux, mais on a déjà perdu la logique de répartition. Alors, pour essayer de la comprendre, cette logique de repartition, j'ai trouvé une photographie aérienne de 1926, une campagne photographique de 1926. Alors, c'est très, très petit, mais on distingue bien, en fait, des noyers. Alors, c'est un peu au nord-est. Vous voyez une petite bande avec des houppiers très foncés. Les noyers, en fait, ils sont au bord des chemins, et c'est logique. On les autorise pas dans les vignes. Et puis, par contre, dans les vignes, on a quelques amandiers, ou en tout cas quelques prunus. Donc, c'est peut-être des pêchers, des abricotiers. Et eux, ils sont, alors c'est des pointillés très très fins, mais ils sont en rangées, ils ne sont pas non plus dispersés n'importe comment. Il y a des petites rangées d'arbres fruitiers au milieu des vignes. Et puis, quelques chiffres, 1929, recensement de 1929, où on voit qu'en fait, si aujourd'hui on donne beaucoup de poids à ces arbres isolés dans le vignoble de Saumur-Champigny, mais en réalité, ils ne représentaient que 3,6% du total recensé dans le canton. Donc en fait, c'était déjà dans cette époque-là pas forcément représentatif de ce paysage. Alors le bilan de tout ça, eh bien, on voit qu'on a des... Aujourd'hui, on construit un modèle de haies favorable pour la biodiversité, pour plein de fonctions, qui serait construit en dehors, un modèle de haies idéal, haies champêtres idéal, qui serait à la fois plurispécifique, plurifonctionnel, varié, étoffé, et qui correspond en fait à une certaine relecture des héritages agronomiques, c'est-à-dire qu'on a construit des haies très travaillées, et puis sans doute il y a une période où on les a abandonnées, et c'est cette phase de construction-abandon qu'on a relue, c'est-à-dire des haies dans lesquelles on retrouve plein d'espèces qui sont poussées spontanément, mais qui n'étaient sans doute pas plantées à l'origine. D'autre part, un paysage dit identitaire, l'exemple des noyers, des amandiers, naît plutôt des impressions. Alors, pour l'anecdote, en 2003, le PNR a financé la plantation de noyers dans le vignoble, et les gens, ils insistaient pour que les noyers soient dispersés en plein milieu de la campagne, un peu partout, donc par rapport aux impressions qu'on avait. Et donc les gens ont planté des noyers, en effet, un peu partout, puis c'était la sécheresse en 2003, et donc forcément, à 3-4 km de leur habitation, ils n'ont pas été les arroser. Ils ont arrosé ceux qui étaient à côté de chez eux, mais pas ceux qui étaient au milieu du vignoble. Donc en fait, ceux qui étaient au milieu ont péri dès la première année. Et à ce moment-là, ils se sont posés plus de questions, ils se sont dit, mais en réalité, peut-être que les arbres fruitiers, vaut mieux peut-être les mettre à côté des habitations. Enfin, vous voyez comment ça fonctionne. C'est l'expérience, mais c'est vraiment l'expérience qui montre la logique, en fait, du paysage. Donc, des éléments symboliques qui ont plus de poids, en fait, que les structures fonctionnelles. Et on a repéré les éléments, mais on a oublié la structure, on a oublié le fonctionnement dans l'espace. Et puis des éléments qui sont pensés sans leurs voisins, ça c'est très important. Aujourd'hui, on imagine la haie idéale, mais on n'imagine pas à côté de quoi elle va être, et donc quelles sont les contraintes qu'il va falloir intégrer pour réfléchir à la composition de cette haie et à l'entretien de cette haie. Et puis un autre élément qui me paraît très important, c'est que l'idée que le bocage, c'était quand même le symbole, enfin la clôture, c'était le symbole de l'individualisme. Et aujourd'hui, les néo-bocages, c'est avant tout des entreprises collectives, des projets collectifs, et qui encourage un peu une certaine désarticulation des échelles. Donc on pense surtout à la fonction globale, donc la biodiversité, les corridors écologiques, etc. etc. Donc fait penser tout de suite à des compositions de haies. Après, le lieu où on la positionne, c'est plutôt une opportunité. Ça n'a pas été réfléchi vraiment en termes de fonction agricole. Et puis, bien la forme, ça va tenir compte de l'appropriation que vont en faire les exploitants agricoles. Donc c'est un peu aléatoire, et c'est ce qui explique aussi que c'est un peu difficile à mettre en place. Et donc, au final, une difficile réappropriation par les exploitants. Donc on voit que, bien, par rapport, on leur a proposé une liste de végétaux. Et bien, dans cette liste, ils ont choisi, bien, au final, eux, ils sont revenus à une vision un peu plus terre-à-terre, on pourrait dire, du paysage. Ils ont dit, bien, maintenant que j'ai ma haie ici, bien, qu'est-ce que je vais accepter comme espèce ? Donc en fait, ils ont surtout mis des groseilliers, parce qu'en fait, c'est ce qu'il y a de moins gênant pour une vigne. Et donc, on a comme ça des petites haies de groseilliers qui fleurissent dans le Saumur-Champigny. Donc ça va peut-être être une nouvelle activité, mais c'est quand même très paradoxal par rapport aux grands objectifs de départ. Donc il y a moins de plantations que prévu aussi. Il y avait 30 km de prévu à l'origine, mais ils sont à 20 km. Et puis, on a des plantations qui sont surtout au bord des routes et des chemins, en fait, là où c'est le moins gênant. Alors on peut se poser la question de la fonction réelle, en fait, de ces haies-là, de ces pseudo-haies plantées, et puis leur durabilité. Alors juste pour vous montrer, voilà par exemple la liste qui avait été présentée aux viticulteurs, et ils leur demandaient de choisir dans cette liste des espèces, et j'ai mis en rouge celles qui, en revenant sur les traités anciens d'agronomie, qui nous disaient, mais surtout ne mettez pas ces espèces-là, parce qu'elles ont des racines traçantes, elles font trop d'ombre, elles sont néfastes à la vigne en fait. Alors les agriculteurs, eux, ils ont choisi à la fois des espèces emblématiques, comme le noyer, donc là c'est peut-être une erreur à voir, s'il se développe beaucoup, ça sera peut-être gênant. Et l'amandier qui est beaucoup plus logique, les groseilliers, alors il y a eu vraiment beaucoup de groseilliers parce que c'est très petit, c'est très discret, ça permet de toucher les subventions, il faut être honnête, et en même temps ça n'engage pas à beaucoup d'actions. Et puis par contre il y a une logique très intéressante aussi, c'est qu'ils ont mis beaucoup de fruitiers, mais c'est normal, et on revient à une utilité première de la haie, c'est aussi de fournir des ressources, quoi. Alors, conclusion par rapport à tout ça, bien, qu'est-ce qui s'est passé ? On a, au départ, donc, grâce à des subventions de la région, du département, du PNR, donc là aussi qui se retrouve au milieu, des subventions pour subventionner des objets soit hérités de pratiques, je vais mettre ça comme ça, de pratiques passées, comme les noyers, les amandiers, mais qui, même au XIXe siècle, étaient considérés comme déjà un peu désuets. Par contre, on a aussi encouragé un objet qui est complètement innovant dans ce paysage-là, la haie, avec l'idée que ça devrait, pour que ça fonctionne, il faut que ça soit associé à des pratiques futures. Et donc, il y a une certaine rupture assez nette entre les pratiques viticoles d'un côté, actuelles. Donc, on nous dit, bien voilà, les pratiques viticoles, ils sont soumis à un décret d'AOC, et le décret d'AOC porte sur des choses très concrètes sur la gestion des tournières, des interrangs. Associé à ça, il y a des héritages. Les héritages, on les encourage, mais on ne sait pas trop à quoi ils vont servir dans l'avenir. Et puis, en même temps, des objets complètement innovants comme la haie. Alors, cette rupture, les résultats de l'étude le montrent. On voit qu'il y a une vraie rupture entre la dimension un peu économique. Première constatation, pardon. On voit que le projet, d'abord, est davantage vu dans sa dimension paysagère, touristique, que vraiment économique. La biodiversité, au final, ce qui était avancé comme le fer de lance de cette opération, mais c'est plutôt considéré comme une question mineure dans l'ensemble des questions environnementales. Il y a une étude sociale qui montre que les acteurs, en fait, citent très peu la biodiversité. Et puis, en fait, il y a une rupture avec les pratiques viticoles, et on s'aperçoit qu'en fait, ce qui est surtout mis en avant, c'est le côté touristique, donc avec l'idée qu'on va embellir le paysage et puis qu'on va aussi soigner l'image de marque. Donc, conclusion, il y a une rupture, et la seule chose qui permet de faire le lien entre tout ça, c'est l'idée d'une double valorisation à la fois du territoire d'un côté et du produit. Et là, on voit que les viticulteurs communiquent énormément sur le produit. Donc en fait, la conclusion, c'est à quoi vont servir vraiment ces haies. Et à la limite, on peut accepter que maintenant, le nouveau rôle des haies, c'est d'être une fonction d'ouverture au public de ces paysages agraires, une fonction touristique. Mais à ce moment-là, ça mériterait, comme autrefois, de réfléchir, c'est quoi la meilleure haie pour ça. Et toujours pareil, en fonction des vrais objectifs, et puis de la localisation, des contraintes d'entretien, etc. Donc, par rapport à ma question de départ, où j'interrogeais le bon sens, j'ai l'impression qu'on fait du paysage à l'envers aujourd'hui, en partant du modèle paysager tel qu'on le rêve, plutôt que de partir du territoire. Et mon dada par rapport aux paysagistes, c'est de leur dire de revenir aux réalités du territoire et d'inventer des nouveaux modèles, parce qu'il y a sans doute des nouveaux modèles de haies à réinventer pour les nouvelles fonctions de la société. Je vous remercie de votre attention.